Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Et vous écoutez France Culture. Tout musée n'est qu'une morgue. Michael Curtis, c'est pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre au musée en ce dimanche et dans le plus étrange musée du monde, celui conçu par l'historienne Pauline Marie, auteure aux éditions Rouge Profond de L'Art Assassin, formidable essai sur la dimension criminelle à l'écran de l'artiste, du collectionneur et de l'œuvre d'art, une déambulation analytique et poétique exaltante au fil d'une dizaine de films, de La main du diable de Maurice Tourneur à Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Chronique en second temps d'émission, signé Philippe Rouillet et Christophe Beer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, en ce dimanche consacré au cinéma et à un essai paru au mois de septembre dernier, mais Mauvais Genre ignore le temps, bien évidemment, signé Pauline Marie, L'Art Assassin, histoire de crime, au pluriel, au cinéma, aux éditions Rouge Profond. Bonjour Pauline Marie.
Bonjour François.
Soyez la bienvenue à Mauvais Genre pour un essai qui, j'avoue, nous a tout à fait enthousiasmés, à la fois par le thème, l'originalité du traitement et puis l'écriture, puisque c'est un texte écrit, extrêmement écrit, avec par moments des élévations poétiques dont on va parler. Donc soyez la bienvenue à Mauvais Genre pour cet art assassin. Vous serez soumise aux questions de Christophe Beer. Bonjour, bonjour.
Bonjour François.
Quoi de neuf, maître Beer? On
peut... Eh bien, quoi de neuf?
Y a-t-il du neuf, toujours?
Non. La vie continue.
Et Philippe Rouillet qui vient de remettre d'ailleurs il y a quelques jours les prix de la critique cinéphilique.
La Cinémathèque française,
c'était en DVD.
C'était lundi dernier.
C'est quoi cette année les prix?
Eh ben, en patrimoine, on a The Host chez Joker, dont j'avais parlé ici même. En coffret, on a un super coffret Delphine Seyrig, je pense qu'il ferait plaisir à Christophe, chez Arte, avec des films qu'on avait un peu moins vus, et surtout un très bel accompagnement de Virginia Pugh, qui a aussi dessiné certains bonus. L'idée, évidemment, de ces prix, c'est de, non seulement... prime des films qu'on aime, mais surtout comment ils sont accompagnés. Par exemple, pour le DVD récent, on a primé Anatomie d'une chute, parce que bon, voilà, le film est bien, mais c'est très rare sur les DVD récents, et on le voit bien, un mauvais genre, des gens qui font un travail d'accompagnement. Mmh. Et là, il y a vraiment presque 3 heures de bonus. Ils ont fait appel à des vrais journalistes. Pour interviewer les talents deux par deux et essayer de comprendre la mécanique de ce film et comment, au-delà de toutes ses qualités cinématographiques, réussir à garder cet équilibre sur la culpabilité potentielle ou pas de l'héroïne, de la protagoniste. Et ça, c'est très intéressant, cette question du dosage, qui se retrouve du coup à toutes les étapes de la fabrication, du scénario au montage, et les bonus accompagnent toute la création du film. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Et puis, en curiosité, cette espèce de wildcard qu'on se donne chaque année au jury, parce que voilà, les films de patrimoine, les films récents, les coffrets, et puis la petite perle, c'est chez nos amis de Spectrum.
Oui. Un jour, nous irons.
Qui sortent de l'Asie pour ouvrir une nouvelle collection avec le film tchèque Painted Bird, qui est une sorte de continuité de Requiem pour un massacre. Enfin, je veux dire, c'est un enfant dans la tourmente de la guerre. Le film a été maudit, il avait été acheté pour sortir pendant le Covid. Et voilà, enfin, du coup, le Covid a empêché qu'il sorte. Et du coup, le film est resté inédit en salle. Et donc, il y a ce film accompagné d'un making-of de 2 heures sur place. Qui raconte l'effort de création de cette immense fresque tchèque.
Merci Philippe. Mauvais genre donc aujourd'hui, L'Art Assassin, Pauline Marie. Mr. Tinnitus, that's what they call me. It's fine, your inside is a gold mine. No doubt, there's no need to scream and shout. I bring a lot of whiny clout. To spare, from the depths of your aura. Alors, Pauline Marie, vous êtes historienne d'art, vous travaillez sur l'art contemporain avec des sujets qui sont quand même, Christophe Beer a lu un de vos livres précédemment émission.
Qui annonce d'ailleurs, enfin, il y a déjà des éléments que dans le livre Le Voyeur Halluciné.
Le Voyeur et l'Halluciné.
L'Halluciné,
c'est votre thèse.
Presse universitaire de Rennes.
L'Op Art, Le Voyeur et l'Halluciné. Il y a un autre livre là, Membres fantômes, Artung, Sandrars, Brauner. Alors on va se rendre compte que les rapports entre la création, le corps ont pour vous une importance absolument centrale. Mais dans ce livre, Membres fantômes, aux éditions des cendres, comme les cendres du feu, là c'est absolument nodal puisque c'est un livre consacré à trois artistes mutilés.
Oui, c'est ça.
Alors, comment vous en êtes venu à ces problématiques, d'ailleurs? Parce que ce soit Le Voyeur et l'Halluciné, Le Mutilé, ou ce dont on va parler aujourd'hui, L'Art Assassin, il y a toujours un rapport entre le sujet intime, l'art, la souffrance, la mort et la pratique artistique.
Tout à fait. En fait, je travaille depuis des années sur la sadisation des œuvres. Et le regard sadique à partir des œuvres d'art, depuis les œuvres d'art.
Alors, la sadisation des œuvres, c'est à quel point l'œuvre d'art participe d'un désir sadique, ou est-ce que c'est l'œuvre qui sadise son propriétaire ou son...
Ben, c'est les deux, en fait. Voilà. Si vous voulez, je suis assez fascinée par la manière dont les images peuvent être émanantes, qu'elles proviennent des films ou des œuvres d'art. Par exemple, dans Le Voyeur et l'Halluciné, donc mon premier livre, hein, c'était vraiment une réflexion, enfin, une exploration des formes méchantes de l'art, hein, aussi bien du côté de l'opart, puisque vous le savez, c'est une avant-garde des années 60, et ce sont des flashs, des lumières, des moteurs électriques, des œuvres abstraites comme ça qui viennent vraiment assaillir le spectateur.
L'agression
physique. Dans le cinéma, je pense que le cinéma est l'art le plus sadique qui existe, puisque il nous fait cauchemarder, il est capable de nous traumatiser. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces images? Et pour dire un mot sur mon fantôme, en fait, j'ai travaillé aussi sur Hans Hartung, hein, donc un peintre abstrait lyrique des années 60-70. Je crois un jour que vous avez dit qu'il fait des coups de peigne comme
oui,
ça,
il peint. Oui, des tableaux à coups de peigne.
Voilà, à coups de peigne. Et j'étais fascinée par sa jambe manquante, en fait, hein, parce qu'on avait retrouvé la prothèse de sa jambe, puisqu'il a été amputé sur le front de Belfort en 1945 à la guerre. C'était un Allemand qui a combattu avec les Français contre les nazis et qui a été amputé dans des conditions absolument abominables. Et quand on a retrouvé la prothèse de cette jambe à la cave, hein, donc dans son ancienne demeure qui est maintenant la fondation Hartung Bergmann, quand j'ai vu cette énorme chose, je me suis dit, mais en fait, c'est une lacune, c'est quelque chose, à la fois une lacune dans l'histoire de l'art. On dit en une phrase comme ça, Hartung perd une jambe à la guerre, et puis on n'en parle plus. Et en même temps, une lacune qui prend énormément de place. Et donc, l'idée, c'était comment... Je me disais qu'il était impossible que Hans Hartung n'ait pas souffert de violentes douleurs fantômes, et que ces douleurs fantômes n'aient pas ensuite impressionné, n'aient pas complètement façonné son rapport à la peinture, sa manière qu'il a de gratter comme ça dans la peinture fraîche avec des rasoirs. Le problème, c'est que, bon, je viens de la tradition de l'histoire de l'art, il faut des archives, on avait juste des archives médicales, très peu de choses. Hartung était vraiment quelqu'un de stoïque qui ne se plaignait jamais. Et donc, comment faire parler cette douleur? Et donc, j'ai un petit peu lâché le bébé de l'histoire de l'art pour aller du côté de la littérature. Et je me suis dit, bah, qu'en cela tienne, je vais faire parler cette jambe, hein. Donc, je suis entrée dans la littérature par une amputation, et c'est là où je me suis rendu compte que les objets manquants, les œuvres d'art, la pratique pouvait venir d'une forme de harcèlement. Donc ça, c'est le côté intime. Et donc, pour L'Art Assassin, ça fait longtemps que j'ai Caravage en tête, que j'aime. Je me dis, bon, je me rappelle quand j'étais adolescente devant les Caravage, quand on m'a dit qu'il était assassin, tout de suite, j'y ai trouvé.
Alors, attendez, il y a aussi Sandrars et Brauner. Enfin, il y a Hartung, il y a plusieurs...
Ah oui, alors on reste sûrement fort.
Voilà, alors... Sandrars, c'est le bras manquant, légionnaire pendant la Première Guerre mondiale, bras pulvérisé au front pendant les combats, donc
pendant la
aussi.
Grande Guerre.
Et puis Brauner, c'est l'œil, je crois, c'est ça. C'est...
Exactement. Voilà. Donc Brauner, c'est un peintre roumain qui a été nucléé dans une bagarre à Montparnasse à coups de bouteille de vin en 1938.
C'était un sport local extrêmement pratiqué. Relisez les mémoires de Kiki de Montparnasse qui viennent d'être éditées au Nouveau Monde. Vous avez quelques chapitres éloquents sur cette question.
Et en un mot, c'est vrai que j'ai parlé de l'idée que je fasse. Enfin, j'ai dit que je faisais parler les membres fantômes, mais c'est un dialogue imaginaire entre La jambe de Hartung qui est dans les limbes, qui revient hanter son corps, hein, puisqu'on est dans un dans une forme de harcèlement. C'est le principe du membre fantôme. Et à partir de j'ai fait une lecture assez fantastique de ce problème médical, on va dire. Et dans les limbes, la jambe se balade, est en train de maudire effectivement le fait que l'autre corps, enfin le corps de Hartung est resté sur terre et lui manque. Et elle rencontre le bras, comme vous l'avez dit, coupé. Ce poète maudit un peu lascar, si j'ose dire, qui est Blassandra. Et ils vont tirer toutes sortes de leçons philosophiques, notamment en allant consulter l'œil aux vertus d'oracle de Victor Bronner.
Voilà. Alors ça, c'est votre précédent livre, Membre fantôme, donc l'édition des cendres. Et alors comment vous en êtes arrivé à l'art assassin? C'est un peu une sorte de traité général, puisque ça focalise et ça reprend toutes ces préoccupations.
Je sais pas si ça les reprend. Enfin, c'est toujours pareil. Quand on jette un œil en arrière, on se rend compte qu'on a des obsessions et des névroses. Mais comme je vous le disais, donc c'était Caravage. C'est quand même un artiste assassin, quoi. Le
Judith grand... et Holofernes, voilà. 1598.
Voilà. En deux mots, Caravage, c'est donc le génie du clair-obscur, mais aussi quelqu'un de très bagarreur qui tue dans un duel un rival à Rome en 1606 et qui a ensuite complètement dépéri. Ça a été le début de la décadence, puisque voilà, il finit lui aussi d'une blessure à la jambe. Il meurt de septicémie sur une plage près de Naples parce qu'il avait été excommunié. Donc c'est toute une histoire. Et en fait, moi, ça faisait depuis des années que j'étais un peu obsédée, donc le voyeur halluciné évidemment de ça, obsédée par les liens un peu maudits entre avec la création. Je me disais, mais finalement il y a comme une liaison secrète entre, c'est peut-être un fantasme, mais entre deux pulsions, une pulsion primordiale qui est l'envie de tuer, qu'on a tous en nous, hein, ça, c'est comme ça, et une autre pulsion qui est censée la sublimer, qui est donc la pulsion de création. Et Freud nous a dit pendant des années, on est pétri de cette culture-là, que la première pulsion la deuxième pulsion nous préserve de la première, que l'art supprime quelque part l'envie de tuer, c'est la sublimation. Or, en fait, cette idée est quand même récalcitrante, et notamment la littérature nous dit le contraire. Voilà. Si on regarde du côté des romantiques, des symbolistes, des naturalistes, donc c'est Zola qui met en scène un assassin en s'inspirant de Cézanne. C'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, mais c'est aussi Edgar Poe qui a influencé tout le cinéma d'horreur. C'est Théophile Gautier, voilà, tout ça. Tous ces gens-là nous disent qu'il y aurait quelques liaisons secrètes et organiques entre les deux. Et donc moi j'avais cette intuition-là. Le problème, c'est toujours pareil. Hein. Moi je vais toujours, ces dernières années, je vais du côté de la littérature et du cinéma quand l'histoire de l'art est un peu une barrière, parce qu'on n'a pas d'archives ou parce qu'on est dans le fantasme. Voilà, on est dans le fantasme. J'ai ouvert un livre qui a été publié en 1963 qui est par deux historiens de l'art allemands brillants, Rudolf et Margot Wittkover, qui avaient donc écrit un livre qui s'appelle « Les enfants de Saturne ». Et donc, eux, ils ont joué le jeu de se demander s'il y avait finalement d'autres artistes assassins dans l'histoire. On a Benvenuto Cellini, qui est donc un orfèvre, qui lui aussi a tué. Donc on a quelques fripouilles comme ça dans l'histoire de l'art. On le sait, beaucoup ont été des immoraux, certains des agresseurs sexuels, des arnaqueurs. Donc c'est un livre assez fascinant qui fait l'inventaire de tous les déboires des artistes peintres, des sculpteurs de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Et en fermant le livre, j'étais, si j'ose dire, un peu frustrée, puisque très peu d'artistes assassins. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai même pas eu à inventer un monde où les artistes seraient des assassins, je l'ai trouvé au cinéma. Voilà.
Au cinéma, vous devez faire le matériau. Philippe Rouillet.
Alors après, le problème, c'est que l'histoire du cinéma est vaste, et moi, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est que vous avez essayé de faire une sorte de taxonomie, c'est-à-dire de trouver des catégories pour s'y retrouver, même si évidemment les films peuvent circuler de l'un à l'autre. Quand on lit votre livre, vous citez dans une partie mais en même temps, voilà, vous commencez fort, vous commencez avec en quelque sorte l'artiste qui passe un pacte faustien, et du coup vous démarrez avec La main du diable, qui est quand même un film assez extraordinaire visuellement, et vous vous osez dire en fait il a tout raté, quoi. C'est un peintre raté, c'est un artiste raté qui rate même sa damnation.
C'est ça votre talisman?
Seulement la boîte, les cercueils. La chose est dedans.
N'ayez pas peur, elle ne vous fera pas de mal. Et c'est pas. Avec une main. Une main gauche. On l'atteint sinistrement, Anus. Sinistre. Tenez, monsieur, admirez. Fermez les poings. Jouez du piano. Claquez des doigts. Rendez-vous compte à vous-même, monsieur. N'ayez pas peur, elle néglige pas.
C'est une drôle de chose. Hein.
Pierre Fresnay et Noël Roquevert avec, une fois n'est pas coutume, l'accent italien dans le rôle du restaurateur qui tente de fourguer la moins maudite. Pierre Fresnay, donc un des premiers des films analysés par Pauline Marie, notre invitée, dans cette catégorie des diables d'artistes. Des gens contaminés par le mal et le mal de l'art à cause d'impacts faustiens. Donc ça, c'est un peu la vision traditionnelle de l'artiste qui n'y arrive pas et qui, pour y arriver, tente une sorte d'alliance. Il faut un étrier, son étrier surnaturel, une sorte d'alliance avec les puissances noires. Alors, on le retrouve avec La Main du Diable, mais vous citez également, alors là, c'est tout à fait différent, La Rue Rouge de Lang, l'histoire de ce Edgar J. Robinson qui joue le rôle de ce petit homme.
Un remake de La Chienne.
Un remake de La Chienne de Renoir. Qui fait une peinture dont il est dépossédé, Maléfice de Coin, et puis le portrait d'Orian Gray dont on va parler, moi, qui est absolument génial, puisqu'à la fois le film de Lewin est tout à fait étonnant, mais il y a derrière un duo de frères extraordinaire, Pauline Marie.
Oui, alors, donc en effet, là, c'est le premier chapitre, le premier volet du livre, Les Diables d'Artistes. Donc, c'est les artistes assassins les plus classiques. C'est un peu l'idée que les assassins sont des artistes manqués, par exemple, et que, en contractant un pacte faustien, eh bien, évidemment, ils vendent leur âme au diable. Alors, peut-être qu'ils ont du génie, mais en fait, on se rend compte que ce génie finit aussi par rater. Alors, j'ai un peu exhumé des films qui sont pas forcément connus, mais si on regarde, ils ont quand même tous en commun leur origine. Hein. Ce sont des films qui ont été produits à l'époque de la collaboration, qui ont été produits par la Continental. Donc c'était la seule société de production, enfin de cinéma français qui était donc gérée par des capitaux allemands. Et donc ce sont des films qui sont pétris de mauvaise foi, de réflexion morale. Donc on a évidemment le Corbeau de Clouzot qui a été tourné dans ces années. Et puis on a La Main du Diable de Maurice Tourneur en 1943. Et donc, à la fin, je crois que c'est plutôt à la fin de cette partie-là sur les diables d'artistes, on entre avec une adaptation du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde par Albert Lewin. L'idée est simple, Albert Lewin en fait fait appel à un artiste décorateur qui est Ivan Albright, hein, qui est un peintre de Chicago qui fait des tableaux assez repoussants dans une sorte de magie fantastique.
Il y a une description hallucinante d'un son tableau le plus célèbre, qui est celui d'une vieille prostituée.
Oui. Ida.
Vous faites ça aussi, c'est la qualité littéraire que soulignait François, c'est aussi dans ces minutieuses descriptions que vous faites d'œuvres qui parfois sont reproduites dans le livre, mais pas toujours. Donc vous nous donnez à voir aussi certains tableaux comme ça qui sont saisissants par le choix des mots. Il y a vraiment une écriture qui est par moments expressionniste. Donc ça, c'est vraiment remarquable.
Merci.
Et ce qui est intéressant pour le cas du portrait de Dorian Gray, c'est qu'en fait, vous êtes très mitigé sur la qualité du film. Et ça permet de mettre en regard ce personnage, ce peintre, Albright, qui s'est servi dans le système hollywoodien, peut-être de cette opportunité de peindre le fameux tableau de Dorian Gray, pour asseoir sa célébrité ensuite.
Essayant de placer son frère pour peindre l'autre tableau.
Son frère jumeau.
On se souvient qu'il y a évidemment deux tableaux. Il y a le tableau, en fait finalement il y en a même trois, mais il y a le tableau de l'homme saint, et puis il y a le tableau déchu. Et donc c'est évidemment, le tableau déchu n'est pas un tableau qu'on a abîmé. C'est un autre tableau qui a été composé. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, on l'a dit en début de l'émission, vous n'êtes pas forcément historienne de cinéma, vous êtes historienne de l'art.
Oui.
Donc, en fait, constamment, oui. La peinture vous accompagne dans votre, voire même la sculpture, vous accompagne dans vos réflexions. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très très enrichissant. C'est-à-dire que on sent bien que vous n'avez pas été chercher à partir des films les tableaux. C'est plutôt le contraire, et que immédiatement vous avez des tas de sources, parce que sur cette première partie là, quand vous parlez de gens qui sont des peintres, par exemple l'artiste de la main du diable, il y a bien un moment où Maurice Tourneur doit montrer les œuvres. Évidemment, il y a des cinéastes qui préfèrent les laisser hors champ, mais lui décide. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer comme œuvre qui va être à la hauteur de ça ? Et c'est là que c'est intéressant d'avoir tout votre bagage artistique que vous amenez, parce que tout d'un coup, il y a Balthus, il y a Picabia, et comme le dit Christophe, vous décrivez de manière très forte, à la fois poétique, mais très visuelle. Et ça donne un éclairage, évidemment, sur.
Pauline Marie.
Tout à fait. Pour dire deux mots, si vous le permettez, sur le portrait de Dorian Gray. Alors, en effet, dans le livre, on a le portrait qui est peint par Basil Hallward, donc qui est un portrait tout à fait classique et qui est le portrait d'Éphèbe de Dorian Gray. Et puis ensuite, à la suite d'un pacte faustien, donc qui est contracté comme ça un peu en l'air par Dorian Gray, qui se dit, mais mon Dieu, si je pouvais rester beau toute ma vie et que le tableau vieillisse à ma place, on aura ensuite un pourrissement de ce tableau, et le décor de ce tableau a été confié à Yvonne Albright. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que, première remarque, on se rend compte que, en effet, le tableau va voler la vedette au film.
Ah oui.
Et d'ailleurs, il est en couleur. Et il est comme ça, complètement putride et holographique, je dis, dans le livre. Tandis que l'autre, le film est en noir et blanc. Et on est dans quelque chose d'un peu plus hollywoodien, un peu plus conventionnel. Donc, c'est vrai que moi, j'y ai trouvé vraiment mon miel, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, une œuvre d'art qui l'emporte sur le film, mais qui explose aussi grâce au cinéma. La deuxième chose, c'est qu'on a une sorte de contagion de ce qui est illustré par le réel, puisque de la même manière que dans le film et dans le livre, Dorian Gray vient tuer le peintre authentique pour le prendre à sa place, Yvonne Albright était donc un personnage tout à fait amusant, avec des lunettes comme ça, tout à fait fantastique.
Il ne ressemble pas à Donald Pleasance.
Exactement, et lui, il avait donc un frère jumeau, Malvin Albright, il faisait sa vie entière avec lui, et il a imposé à la production ce jumeau pour faire le premier tableau. Malheureusement, il a été finalement licencié, puisqu'on a jugé que le tableau n'était pas assez bon, et donc on a gardé le vieux tableau. Mais c'est vrai que moi, je me suis amusée à parler de malédiction fratricide et à parler de la contagion du cinéma et de l'art, mais aussi du sujet qu'on traite avec la vie et le réel. Et moi, c'est un peu ce qui m'arrive de toute façon, enfin, ce qui arrive à beaucoup de gens qui écrivent ou qui pensent l'art.
Voilà. La lecture d'un extrait de l'art assassin, page 83. La silhouette chamarrée comme un papillon dégage une odeur pestilentielle. C'est un grand-père à l'œil halluciné, couvert d'excréments ou frappé de la peste comme on l'est de la foudre. Prenez une belle table des Borgia, laissez pourrir sa nappe, froissez-la encore pleine de vin, de mets d'honneur et de vaisselle en argent. Tel est le lit d'immondices dans les plis duquel ce sorcier incontinent impose son chatoiement. C'est le tableau d'Albright décrit par Pauline Marie. C'est vrai que, effectivement, là, vous êtes happé. Il y a un discours analytique historien qui suit sa voix. Et par moments, les œuvres vous happent et c'est la poétesse qui prend la parole.
Oui, il y a de ça. Par ailleurs, je pense amusée à singer des choses de façon assez subtile. Il y a ce livre de Thomas de Quincey qui s'appelle « De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts ».
D'ailleurs, l'émission s'appelle « Des beaux-arts considérés comme un assassinat ». Voilà.
Ah, on vous a suivi. Très bien. Donc, vous savez, c'est cette fiction en forme de conférence au 19e siècle, donc, qui a été écrit par Thomas de Quincey. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle des amateurs du crime, une société de propagation du vice, comme ça, qui est une sorte de secte, et qui s'amuse à une époque où la presse vraiment aime commenter les meurtres et tout ce qu'il y a de plus horrible qui arrive tous les jours dans la rue. Donc ces gens-là se réunissent et donc vont juger du caractère artistique ou non d'une œuvre. Et donc le principe, c'est que quelqu'un, qui est donc le narrateur du début, aurait ramassé par hasard cette conférence et pour le bien commun la publierait. Donc ça s'appelle « Avertissement d'un homme morbidement vertueux ». Donc déjà tout est dit. Et en fait, moi j'ai eu le sentiment que j'étais comme ça dans ce livre, c'est-à-dire que je prenais une voix un peu, peut-être qu'on est dans une certaine polyphonie, c'est-à-dire que j'étais un peu historienne de l'art, parfois un peu critique de cinéma, un peu écrivain chroniqueur, et donc un peu médecin aussi, faisant des diagnostics psychiatriques de tous ces artistes assassins qui ont quand même toutes les tares du monde, et que finalement le cœur du livre, voilà, est décrit par un narrateur. On a un préambule et un épilogue un peu plus classique, qui est un petit peu l'équivalent de l'avertissement qu'on a dans le Thomas de Quincey. Et en fait, je dois dire que c'est pas forcément stratégique. Hein, il s'agit pas forcément de créer une tension. C'est que j'ai été complètement happé parfois, comme dans les ekphrasis, quand on décrit des œuvres, j'avais l'impression un peu d'être leur ventriloque ou leur médium, c'est-à-dire qu'il y a ce côté hallucinant.
Alors là, vous nous reconstituez brillamment le cyclone, mais l'œil du cyclone, c'est pour aller où ? Quel est le but de tout cela ? Est-ce que vous avez un but conscient et affirmé ? Parce que c'est fascinant de voir cette sarabande d'œuvres et d'artistes, mais où va-t-on ?
Dans l'avant-propos, vous parlez tout de suite d'emblée de notre époque actuelle. Et
oui, je cite, ce livre est né du désir de prendre au mot mon époque, puisque l'art subit des procès d'intention.
Oui, voilà.
Ça, on est attentif à ça, à mauvais genre. Puisqu'il est aussi vrai qu'il semble plus vivant une fois incriminé, il m'est venu l'idée insolite de rechercher un monde où les artistes sont effectivement, entre guillemets, des criminels et carrément des assassins.
Oui, vous avez un petit peu la réponse justement de votre question sur le but. Parce que quand on mène une enquête, on est motivé par des motivations superficielles ou plus profondes, plus inconscientes. Moi, j'avais besoin d'un monde, et le cinéma me l'a donné, dans lequel il est impossible qu'il n'ait pas question que l'artiste ne soit pas un assassin et vice-versa. Pour finalement, non pas faire un livre de plus sur l'imaginaire collectif, puisque tout le monde tourne autour de cette question, et comme dans la vraie vie, il n'y a pas plus d'artistes, d'assassins chez les artistes, enfin dans les beaux-arts que dans les autres métiers, moi j'ai fait ce raisonnement par induction, cette espèce d'expérience de pensée en disant, soit, prenons un monde où tous les artistes sont des assassins, tueurs de circonstances, psychopathes ou théoriciens, esthètes criminels. Et dans ce monde-là, quelles seraient leurs œuvres, quels seraient leurs crimes, quel serait leur style, qu'est-ce que ça donnerait en fait, et comment on pourrait justement explorer ce que je disais, élucider cette espèce de vérité humaine, certes tordue par les cinéastes, mais présente des liens entre la pulsion de crime et la pulsion de création.
Vous semblez d'ailleurs, le bilan semble un peu mitigé, comme si certains assassins vous décevaient ou nous déçoivent à partir des œuvres commentées. Certaines émergent comme « Ah bah voilà enfin un film où le meurtre est brillamment mis en valeur et s'en sort avec les honneurs », contrairement par exemple à le pauvre air incarné par Pierre Fresnay dans La main du diable. Je pense par exemple à Femina Ridens qui semble être une œuvre qui tout d'un coup est incomparable par l'éclat que le crime lui donne. On a une adéquation entre l'œuvre d'art et l'assassinat, il me semble vraiment vraiment parfaite. Et très souvent, les films analysés achoppent. En fait, vous nous montrez qu'il y a souvent un enjeu qui est autre que l'enjeu artistique, qui est donc dévoyé. C'est parfois dans le portrait de Dorian Gray, c'est le besoin de reconnaissance, la cupidité, c'est ça qui motive l'artiste dans son pacte faustien, et c'est pour ça qu'il échoue. Donc le livre est aussi une formulation de constat où vous nous dites, donc c'est peut-être là où vous rejoignez le rôle du conférencier un peu, disons, farceur. Bon, bah, il y a certains crimes, voilà comment s'y prendre pour vraiment bien les réussir. Exemple, ce film. Là, vous échouez parce que vous avez trop de ressentiments. Tiens, le ressentiment, c'est une notion que vous abordez à propos de Clouseau.
Oui, c'est vrai.
Le prisonnier.
Mais alors,
Pauline Marie.
Oui, merci beaucoup de vos remarques sur cet aspect-là. Le fait qu'on soit amené au meurtre et qu'on soit assassin ou criminel n'est absolument pas une garantie de grandeur. Ça fait pas pour autant des artistes. Je suis quand même dans une approche assez clinique et froide et détachée. Je les regarde parfois avec une forme de commisération, parfois avec une forme de complicité, comme on peut n'importe quel narrateur peut avoir à l'égard des personnages. D'ailleurs, c'est pas tellement moi qui parle. C'est vraiment le narrateur qui s'efforce comme ça à chaque fois de poser une petite énigme. Pour chaque film, il pose une petite question philosophique et en fonction des films, parfois la question est morale, éthique, parfois elle est factuelle et il y répond à la fin avec cette énigme. Je reconnais que c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à envisager aujourd'hui, mais moi je pense vraiment que le regard sadique depuis les œuvres, vers les œuvres, avec les œuvres, peut nous dessiller les yeux. Et les personnages de certains films sont dans cette réalité-là. Vous parlez de Feminary Dance. Alors, Feminary Dance, donc c'est un...
Ce qui va zappa.
Voilà.
Film dont on a parlé récemment en chronique avec Christophe Bill.
Oui, c'est un film de Piero Schiavazzappa sorti en 1968.
Oui, oui.
Une sorte de giallo comme ça.
Qu'on peut voir en Blu-ray chez Frenesi avec justement votre apport dans les bonus.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Et alors, en deux mots, donc c'est Philippe Leroy qui joue un personnage de sadique, de misogyne, une sorte d'industriel italien. Et donc, il va séquestrer par vengeance une journaliste féministe. Donc, c'est une sorte de guerre des sexes, vraiment dans le goût du cinéma de mai 68. C'est très léché, c'est très pop. On a vraiment un regard esthète. C'était le premier film de Piero Schiavazzappa qui travaillait à la Rai Télévision. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, qui là aussi n'est pas encore parfait, mais on n'est pas là pour... Enfin, on est dans l'impureté de toute façon. C'est que ce personnage s'emploie à sadiser les décors de sa villa et de toutes ses œuvres. Par exemple, il va avoir l'œuf par excellence qui vient illustrer et flatter sa perversité, qui est une œuvre de Lucio Fontana, donc une œuvre qui vient découper une toile au rasoir. Mais il a aussi détourné des sculptures de Allen Jones pour faire comme ça des petits ateliers de torture. Et ça, c'est un aspect très important. Et l'œuvre la plus emblématique, c'est une œuvre de Nikite Saint-Phal, qui est en fait une réplique d'une sculpture qui avait été montrée en 1967 à Stockholm, au Moderna Museet. Donc c'était une énorme nana couchée sur le ventre, qui était donc enceinte, et donc le spectateur pénétré par l'entrechambre, c'était monumental. Mm-hmm. Et à l'intérieur, on avait toutes sortes tout un folklore d'attractions de fêtes foraines. Et le personnage joué par Philippe Leroy, qui est le docteur Seyer, qui est donc le propriétaire de ce sorte de musée d'art contemporain, de musée de la torture, voilà, tout à fait fascinant. Il va sadiser cette œuvre dans sa tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a un moment de panique devant la sensualité de sa victime, de sa prisonnière. Et il imagine l'œuvre de Nikite Saint-Phal et qu'il rentrerait dans cette œuvre. Sauf que qu'est-ce qu'il ajoute dans sa tête? Il ajoute une dentition assassine, c'est-à-dire un porte-sexe guillotine qui vient décapiter comme ça notre personnage. Et ça, je trouve ça absolument génial parce que avec un tout petit détail, le docteur Seyer, le regard sadique en général, évidemment Schiavazzappa, vient pas forcément dénaturer l'œuvre d'art, il vient la renforcer. Nikite Saint-Phal, on le sait, elle a été violée, elle a subi l'inceste quand elle était enfant. Donc là, on a une sorte de punition du violeur qui est donnée par cette image subliminale. Et puis en même temps, il me semble que ce film nous fait voir, le docteur Seyer, par sa hantise, nous fait voir un des aspects qu'on n'avait pas remarqué avec l'œuvre. C'est que c'est quand même une œuvre très perverse, quoi. On va rentrer, on va profaner le temple sacré d'une femme enceinte. Voilà. Maybe you could be the first one for me.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
La chanson de Stello Cipriani pour les sérieux l'esthète de Pauline Marie, l'auteur de L'Art Assassin, notre invité en ce dimanche sur Mauvais Genre. Alors finalement, on a parlé de Femi Daridens, dont on a chance d'avoir aujourd'hui un...
Voilà, très belle
très,
copie.
Très très belle copie. Mais il y a aussi Le secret derrière la porte de Fritz Lang et Psychose. Ça, c'est un chapitre où là, qui moi me le plus inquiété, si j'ose dire. Parce que là, c'est des personnages qui donnent vraiment, qui construisent véritablement un monde et une machinerie tueuse. Le motel de Psychose avec toute cette structure entre les animaux empaillés, la mort, le cadavre de la mère qui est dans la maison, le domicile. Le domicile familial, le motel, tout ça constitue véritablement une sorte de mécanique totalement létale. Et puis, alors pareil pour Le secret derrière la porte, où c'est véritablement un musée morbide complet. Donc ça, c'est le moment, les sérieux esthètes, c'est-à-dire ceux qui se donnent véritablement les moyens de reformuler le monde au gré de leur pulsion. Ils mobilisent le monde pour en faire un accomplissement de leur folie morbide. Pauline Marie.
Oui. C'est vrai. C'est en effet très inquiétant parce qu'on se rend compte que leur cerveau est compartimenté de façon esthétique. Et que ces compartiments, ces chambres, elles sont là pour accueillir des cadavres, des victimes. Et donc, il y a une gestion...
C'est Barbe Bleue, quoi.
C'est Barbe Bleue, c'est ça. C'est une gestion symbolique des traumatismes et artistiques. Mais bon, sauf qu'eux, ils passent vraiment à l'action. Alors, en l'occurrence, pour Le secret derrière la porte, donc ce film de Fritz Lang... très voilà qui est passionnant. Donc on a Marc Lanfer qui cherche à refouler un traumatisme qui est un petit traumatisme de l'enfance. Il me fait un peu penser à La princesse au petit pois d'Andersen. Pourquoi ? Parce que La princesse au petit pois sent un tout petit grain qu'elle a eu sous des dizaines de matelas lui crée un terrible mal de dos. Et lui, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que comme n'importe qui, on l'a enfermé à clé quand il était gamin. Et il en est devenu un adulte qui en veut à sa mère et qui se transforme en Barbe Bleue, en effet. Et donc, c'est un collectionneur, c'est-à-dire qu'il a organisé son esprit mais aussi sa maison, comme une galerie de musée, au sous-sol. Il collectionne en fait des chambres historiques, des chambres historiques.
Côté Tussaud, le côté musée
voilà,
Grévin.
Voilà, musée Grévin. Et chaque chambre, la règle, c'est que dans chaque chambre, il y a eu, chaque chambre historique, il y a eu un assassinat un jour. Et donc sa théorie, c'est que certaines chambres sont, par leur décor, par leur climat sensuel, sexuel, chromatique, propices au meurtre. Mais évidemment, ça c'est une technique pour se justifier à lui-même, sa technique inconsciente, sa mauvaise foi, son mensonge, pour se justifier à lui-même les meurtres de femmes qu'il commet. Donc à chaque fois, il installe sa nouvelle épouse dans une des chambres qui est censée exciter ce meurtre-là, et il finit par la tuer. Et du côté de Psycho, alors j'ai proposé, ce livre n'est pas indemne de projection et d'intuition, je suis volontairement parfois dans l'exagération et peut-être l'extrapolation, mais je crois vraiment que, comme on le sait, Hitchcock avait lu Freud avec La maison du docteur Edwards, et je pense vraiment que c'est...
Et le rêve de Dali, tiens donc.
Et le rêve de Dali, je pense vraiment qu'en fait, pour le dire en deux mots, la maison mère, ce que j'appelle moi la maison mère, qui est en fait le surmoi, des lieux, donc là où vit le cadavre, la momie de sa mère, dans la petite maison comme ça, qui est totalement californienne, expressionniste, et inspirée d'ailleurs du peintre Édouard Aubert. Et le motel, au contraire, est le lieu où a lieu les meurtres, c'est-à-dire l'expression du ça, voilà, de la pulsion. Et donc, quand on réfléchit bien, quand on regarde bien le film, toutes les séquences, c'est à chaque fois cette façon que Norman Bates, joué par Perkins, donc, hésite entre céder au ça ou au contraire mettre le couvercle avec le surmoi. Et donc, avec son plateau repas, comme ça, il va passer d'un espace à l'autre.
Mais c'est ça qui est aussi très intéressant
Philippe
dans votre
Brouillet.
Livre, c'est qu'on a une relecture, parce que je veux dire, Psychose, on vous a pas attendu pour lire sur Psychose,
ouais.
et on se dit, oulala, ça va être un chapitre compliqué. Or non, c'est un des chapitres les plus passionnants, parce que justement, avec vos intuitions, vous proposez une relecture, y compris aussi avec le côté, parce qu'on va se dire, alors, bon, alors, ok, alors, le surmoi et le ça, les auditeurs peuvent se dire, mais alors, où est l'artiste? artiste, alors, puisque on sait que ce type a cette maladie mentale et tout ça. Et en fait, vous nous rappelez que, évidemment, le trou du voyeur, il y a un tableau devant. Et on n'a pas forcément fait attention à ce qu'était ce tableau-là. Et vous nous rappelez Suzanne et les vieillards et comment, dans cette version-là du tableau, les vieillards sont des doubles l'un de l'autre. Et ce qui renvoie au côté double de Norman Bates. Et donc, ça va amener cette question du ça et du surmoi. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre approche est quand même toujours très dictée par la matière du film. Vous êtes très honnête, c'est-à-dire que tout à l'heure Christophe le disait à propos du portrait de Dorian Gray, le film de Lewin, ça vous emballe pas, sauf tout à coup le surgissement. Là, on voit que vous avez vraiment vu le film d'Hitchcock, cette idée du lit de la mer avec le creux de son corps où elle n'est plus, et comment, en quelque sorte, son fils va s'emplir de cette mère avant de tuer et en quelque sorte remplir ce creux. C'est-à-dire que vos théories psychanalytiques sur le film vont toujours être nourries par l'analyse de l'image. Et c'est ça qui, moi, me passionne toujours dans le film, parce que dans votre livre, parce qu'on a toujours envie de revenir au film, même un film qu'on connaît bien, on a envie d'en revoir des petits bouts. Moi, j'ai revu des petits bouts de La Main du Diable, j'ai revu, il y avait des films que j'avais pas vus, comme Maléfice d'Henri de Coin, que j'ai été voir, qui passe sur Gaumont Classique, la plateforme Gaumont Classique, si vous l'avez. Mais même un film comme Psychose, on a quand même envie de se remettre un petit peu du Blu-ray pour revoir quelques plans qui... Et ça, c'est quand même très fort. C'est quand même que c'est un livre, parce que c'est aussi ça la finalité, je trouve, des livres sur le cinéma, ouais, ou sur l'art, c'est de nous donner envie de retourner aux œuvres. Et ça, c'est aussi une mission réussie.
D'aller dans les musées aussi.
Oui, ben c'est ça. Fait, c'est retourner aux œuvres. Retourner aux œuvres.
Pauline Marie.
Merci beaucoup, Philippe Rouillet. En effet... J'ai parlé de la maison mère, qui est l'espace du surmoi, et du motel, qui est du côté du ça. Et dans le motel, on a un espace intermédiaire, qui est donc le moi. Et ça correspond à, vous savez, ce petit bureau, donc vous connaissez ça par cœur, qui est derrière le comptoir de standardiste de Norman Bates. Et ce petit bureau, où il se passe plein de choses, puisqu'ils iront dîner avec Marion Crane, et il est tendu, on a beaucoup en tête les chouettes empaillées, et lui-même, on peut dire que c'est un collectionneur et toujours un artiste qui passe à l'action, parce que c'est pas simplement il est taxidermiste du côté de l'art, du côté de la collection, mais c'est aussi qu'il a empaillé sa mère. Et on a aussi des tableaux qui échappent peut-être un peu plus à l'œil au début quand on regarde le film, un peu moins si on fait image par image et qu'on est historien de l'art, qui est donc les petits tableaux teints au thème de Suzanne et les vieillards, quoi. Donc c'est en effet Suzanne et les vieillards. Bon, on connaît cette histoire, Suzanne qui se fait violer par deux vieillards. En l'occurrence, les deux vieillards qui se sont camouflés dans le film, bah c'est un jeune homme. Et c'est comme ça, un schizophrène. Et donc, à un moment donné, il y a ce lien comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres d'art ? Est-ce qu'on reste dans la pulsion scopique ou à un moment donné, on passe à l'action ? Et comment passe-t-on justement de la collection à la pratique artistique ? Bah, réponse de Hitchcock en tuant, quoi, en décrochant le tableau et en passant de l'autre côté pour aller dans l'espace du ça, pour en effet remplir ce manque. Marion Crane a quitté le champ, un peu comme dans un petit kinétoscope. Et donc, là, il faut aller remplir, assouvir sa pulsion. Et donc, je fais un travail comme ça, en effet, sur les formes un peu sculpturales. C'est de la plastique, hein. Enfin, on le sait, je ne suis pas la première à le dire. De très grands théoriciens du cinéma l'ont dit. Il y a ce rapport plastique de Hitchcock aux formes. Et donc, en effet, quand il porte Marion Crane comme ça, qui est un cadavre, qui est toute recroquevillée, ça fait penser à la mère oiseau dont il a pris la place dans la cuisine en se recroquevillant, et à ce trou pompéen dans le lit voilà, de la maison mère.
Et però lui era già matto. Ecco perché lo chiamavano il pittore delle agonie. Lo chiamavano così perché era uno gli piaceva andare a dipingere la gente che era dietro a morire.
Lo sapete che se io parlo? Lo sapete che se io voglio?
Se vuoi cominciare a capirci qualcosa, devo portarti in un posto. C'è una casa dalle finestre che ridono.
Ma questo è un grande pittore. Solo un grande artista può dare un senso così vero alla morte.
Voilà un film dont on reparlera bientôt dans Mauvais Gens et qui est abondamment analysé par Pauline Marie dans L'Art Assassin, La Maison Fenêtre qui rit, le Poupi Avati, film tout à fait extraordinaire. Mais Laurent Polleret me faisait remarquer que quelle est l'actualité de tout ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, puisque dans tous les films qu'on évoque ont quand même quelques décennies, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose, des films qui incarnent au mieux, et vous parlez du Lars von Trier, Taouza Jack Bill, dont on a parlé à Mauvais Genre, qui serait peut-être le dernier film, peut-être, à incarner au mieux cette problématique?
Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est, si on était dans la catégorie de l'art assassin, on serait un petit peu le film d'art total sur la question. Et c'est un film assez insoutenable à regarder, mais qui, moi, m'a beaucoup touchée, parce que au fond, il vient un peu déconstruire ce cliché d'une pratique esthète qui viendrait sublimer les corps à travers leur assassinat. On est vraiment dans une sorte d'aveu d'échec sur l'idée que il n'y a pas de beauté quand on est dans les corps putrides et quand on est en effet dans l'obscénité assassinant.
Pauline Marie, L'Art assassin, histoire de crime au cinéma, un essai absolument formidable, paru aux éditions Rouge Profond. Deuxième temps d'émission Mauvais Genre en ce dimanche, les chroniques. On commence avec le maître livre sur un des cinéastes qu'on adore, Philippe Rouillet.
Oui, c'est le livre d'Olivier Curchaud, Claude Miller, une vie de film aux impressions nouvelles. Alors, il faut savoir que Olivier Curchaud a bien connu Claude Miller, c'est-à-dire que sa passion pour ce cinéaste n'est pas neuve, et il a eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer, notamment pour Positif, parce qu'Olivier Curchaud est professeur, mais il est aussi collaborateur de la revue Positif, donc c'était lui qui faisait les entretiens avec Claude Miller. Et après la mort de Claude, il s'est pas simplement dit paresseusement je vais réunir mes entretiens, mes souvenirs et tout ça. Non, il est parti dans une sorte de livre de Bible qui est une biographie de Miller, mais à travers ses films. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de raconter la vie privée de Claude Miller. Il y a quelques allusions, mais uniquement si ça se télescope, mais c'est comment il a été amené à faire ses 17 longs métrages et avant les courts métrages. Et donc c'est un travail de bénédictin de 10 ans pendant lesquels Olivier Curchaud a non seulement revu les films, relu tous les entretiens de la Terre qu'avait pu donner Claude Miller, mais surtout, il a rencontré toutes les personnes vivantes. À la fois son fils, mais aussi ses interprètes, ses camarades scénaristes, comme Luc Béraud, les gens qui ont fait l'image de ses films. Et du coup, il nous offre une sorte de film par film, mais qui reconstitue à chaque fois la genèse, et à partir de cette genèse, en faire saillir les mérites visuels et cinématographiques. Le chapitre sur Mortelle randonnée a dû tout à fait vous régaler.
Ah bah oui.
Parce que même si on en avait beaucoup parlé ici de ce film Mortelle randonnée, y compris avec Jacques Audiard,
avec son scénariste dialoguiste,
voilà, son co-scénariste, là évidemment Curchaud va tout reconstituer la genèse du film, et on a des dates, c'est-à-dire que non seulement il a interviewé les gens, mais il faut toujours se méfier des souvenirs, il a été chercher les plans de tournage, les plans de travail, etc., et donc reconstituer cette espèce de tournage fou qui se fait à travers l'Europe. C'est un tour d'Europe, puisque chaque séquence se passe dans un pays différent, sauf que le plan de tournage a été un peu trop serré, il y a eu un peu trop d'incidents, si bien qu'il y a eu un décalage, et que finalement, à chaque station, il manque des plans. Donc en fait, une fois que c'est fini, avec son monteur, Albert Jurgenson, qui est un formidable monteur, il se dit, il faut refaire un deuxième tour d'Europe, ce qui va précipiter le film dans le rouge. Et on va comprendre comment ce film, qui est un peu un film jumeau de Garde à vue qu'il avait fait juste avant avec le même Michel Serrault, mais qui était tout le contraire, qui était un huis clos, comment les deux films... Bon, je vous ai donné cet exemple-là pour vous montrer comment, mais c'est un livre de 500 pages, et tous les films de Miller sont comme ça analysés. Donc, si vous aimez Claude Miller, vous achetez ce livre, un point, c'est tout. Voilà. Et vous aurez tout à la maison dans ce pavé. Et je voulais faire une mention d'un autre livre consacré à un autre cinéaste qui est presque contemporain de Miller, parce que Miller est né en 42. L'autre est né en 44, c'est Pascal Thomas. Et alors là, c'est un peu différent, parce que c'est Pascal Thomas, souvenir en pagaille, anecdote recueillie bien malgré lui par Alain Krüger et Jean-Olé Laprune. C'est-à-dire que jamais Pascal Thomas n'aurait voulu, c'est chez Séguier, jamais Pascal Thomas n'aurait voulu faire ses mémoires ou une autobiographie. Même le livre d'entretien, il était réticent. Et du coup, on a ce livre où les deux intervieweurs ont passé des mois et des mois à lui arracher. Et du coup, on a effectivement des souvenirs en pagaille, mais comme, j'allais dire, comme les films de Pascal Thomas sont un peu en pagaille. Et du coup, il y a des anecdotes qui ont trait à sa vie, il y a des anecdotes qui ont trait au tournage des films. Et le film va un peu comme ça, j'allais dire un peu en bouchonnant. Et ce qui est très passionnant, c'est que soit on peut lire comme ça une page ou l'autre, soit si on suit tout le courant de ce livre, eh ben on se retrouve comme dans un film de Pascal Thomas. Et je trouve que c'est le plus grand compliment qu'on peut faire à un livre sur le cinéma, c'est d'être comme l'univers du cinéma qu'il décrit. Donc c'est chez Séguier, ça s'appelle Pascal Thomas, Souvenir en pagaille.
Merci Philippe Rouillet. On passe maintenant évidemment au maître Bille.
Créé en 1977 par Pascal Dourry et Bruno Richard, Elson de Sortie est un grave zine qui dessilla nos yeux. Il continue son aventure, souvent en photocopie agrafée, reproduisant du Bruno Richard, seul depuis près de 30 ans. Comme jadis Pornographie catholique par Le Dernier Terrain Vague ou Le Sexy Polizei diffusé par Futuropolis, le 100e ESDS sort de l'auto-édition pour être confié à Stéphane Blanquet, qui en fait un monument. Reliure cartonnée, toilée rouge ou noire, impression fer à chaud argenté ou doré. Soit l'un des plus importants livres d'United Dead Artists, dénommé « Bible » dans son catalogue, est titré « 1000 dessins de merde quotidienne », pavé de 7 cm d'épaisseur, classant du plus clair au plus sombre, 1000 dessins choisis parmi la production journalière depuis des décennies de Bruno Richard. Sa rage expressionniste explose. Accumulation et saturation des traits, visions obscènes et brutales, toujours plus sales, écrit-il sur un dessin. L'artiste s'inspire d'images porno, parfois intégrées dans la page. Zoophilie et sodomie en regard de ses adaptations furieuses. Parodie les poses de pin-up dans une intrication de lignes agitées. Autopsie de femmes enceintes, croquis de personnages en angle droit, études académiques et traités d'anatomie dans un tumulte des formes. Corps en lambeaux déliquescent, peau creusée, seins flasques, cuisses affachies, ventre fendu de honte, mains décorchées, traité des supplices, entonnoir, étranglement, crucifixion, amputation, écartèlement, bûcher, pince, treuil, arrachement des côtes, décapitation, croix gammée, tatouée, primitive étreinte, trou d'obus et trou de balles, menstruation maladive, elle me désarme avec ses larmes, dans les latrines, a enivre ses narines, verge d'excréments, pour s'arrêter, il suffit d'un mur. Une poésie des caniveaux se dissémine en bout de texte. Abject objet, trafics en Afrique, aréoles infernales, désespoirs utérins, ça s'agir, elle trouve ça sage, sale garce suceuse de mes SS, allitérations et titres chocs, en fièvre le peu de blanc laissé par le dessin. Passé la moitié du livre, on s'enfonce dans le noir, déluge de traits et de douleurs. Indomptable Bruno Richard, il sort ses tripes et puis c'est tout. À Xavier Gilles Néret, l'historien des Gravesines, il reconnaît une esthétique, celle de la déformation des images, de la brutalité naïve, de la culture du ratage. Pour lui, l'objet imprimé prime sur l'original. Le Gravesine devient une exposition à feuilleter, une anti-galerie donnant à voir 1000 dessins pour un prix modique, sans légitimation institutionnelle. Blanquet, éditeur, est le galeriste fou et rêvé de ce foisonnement infernal.
Voilà, moi je recommanderais un documentaire visible sur le site d'Arte, signé Yal Sadat et Camille Jusa, documentaire sur Martin Scorsese, qui est tout à fait passionnant parce qu'il donne une grande part au tuf sociologique historique de la communauté américaine italienne, notamment à sa famille, et il montre comment l'œuvre de Scorsese s'élabore à partir de cette espèce de réalité pesante, nutritive et totalement permanente, sociologique américaine du milieu italien. Et donc, comme la manière, donc, une espèce de fusée à plusieurs étages, Scorsese a bâti véritablement son œuvre en s'alimentant de manière permanente à ses origines sociales. C'est tout à fait passionnant. C'est fait avec beaucoup de minutie, de richesse, avec notamment des documents assez peu fréquemment sollicités par les documentaristes. Donc, Yal Sadat et Camille Jusa, c'est sur Arte, documentaire sur Martin Scorsese. Merci Pauline Marie.
Merci à vous.
D'avoir été notre invitée à Mauvais Genre. Je recommande très chaudement, bien sûr, L'Art Assassin, Histoire de Crime au Cinéma, c'est chez Rouge Profond. Le livre sur Pascal Thomas, c'est chez Séguier. Le livre sur Claude Miller, c'est aussi
Impression Nouvelle.
Impression Nouvelle. Et Bruno Richard, c'est chez Blanquet Éditeur. Toutes les informations sur le site de Mauvais Genre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Mélodie Esman, Claire Poissignon, Claire Martin Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Beer et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.